bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet, le sommet de la Ligue arabe, et pas seulement les perspectives qu'ont apporté ce sommet, les messages forts, mais également la vision algérienne. Comme le veut notre format débat, nous commençons donc par un reportage et par la suite par la venue de nos deux invités. Aujourd'hui, ce sera deux invités algériens, journalistes algériens. Je vous propose donc, pour commencer ce débat, notre reportage.
Le 1er novembre, l'Algérie a accueilli le premier sommet de la Ligue arabe depuis la signature des accords d'Abraham en 2020, qui a vu un certain nombre d'États arabes, dont Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Maroc, normaliser leurs relations avec Israël. Le dernier sommet de la Ligue arabe s'est tenu en 2019, un an avant la signature des traités de normalisation. Les dirigeants et les délégations représentant les États arabes ont commencé à arriver dans la capitale du pays Alger le 30 novembre. Parmi eux figurent le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président du conseil présidentiel de leadership au Yémen, soutenu par l'Arabie saoudite Rachid Al-Halimi, le vice-premier ministre de Bahreïn Cheikh Mohammed bin Moubarak Al-Khalifa et le premier ministre intérimaire du Liban Najib Mikati. L'Algérie ainsi que d'autres pays arabes restent farouchement opposés à la série d'accords de normalisation que les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont signé avec Israël au cours des trois dernières années et qui ont divisé la région en deux camps. Le Soudan a également accepté d'établir des liens avec Israël. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est engagé dans son discours d'ouverture mardi à déployer des efforts considérables lors du sommet pour tenter de réaffirmer le soutien aux Palestiniens dans leur conflit avec Israël, alors que la tension des communautés arabes et internationales se tourne vers d'autres conflits et crises. Tebboune a critiqué Israël pour son occupation continue des territoires palestiniens et l'expansion de ses colonies illégales. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a déclaré que les ministres des Affaires étrangères des États arabes ont tenu des consultations pendant deux jours, à partir du 29 octobre, pour donner le coup d'envoi du sommet. L'Algérie a lancé le sommet à un moment où le statut du pays d'Afrique du Nord en tant qu'exportateur régional de gaz a été renforcé et où il coopère avec de grandes puissances telles que la Russie et la Chine. Alors que le Liban souffre d'une grave crise économique et d'une pénurie du carburant, les représentants du pays, dont Mikati et le ministre libanais de l'énergie Walid Fayad, ont assisté au sommet dans l'espoir de s'assurer de l'Algérie comme source d'énergie. En août, Fayad a déclaré que l'Algérie était prête à fournir au Liban du carburant pour ses centrales électriques par l'intermédiaire de Sonatrach, la compagnie pétrolière publique du pays d'Afrique du Nord. Parmi les autres sujets abordés figurait le conflit au Yémen, dans lequel un fragile cessez-le-feu maintenu depuis avril s'est finalement effondré après avoir expiré le 2 octobre.
Alors, comme le veut donc ce format de débat, nous allons accueillir tout d'abord nos deux invités, M. Akram Karyev. Bonjour, M. Karyev.
Oui, bonjour.
Donc, journaliste indépendant situé en Algérie. Notre deuxième invitant étant M. Tariq Hafid, également journaliste indépendant. Bonjour, M. Tariq Hafid. Monsieur Tariq Hafid, nous reçoit-il?
Je vous reçois et je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, je vous dis bonjour.
Merci, oui, on vous entend très bien. Alors, le sujet de la Ligue arabe, ce n'est pas forcément le cours du sommet, puisque le sommet a pris fin mercredi. Ça serait plutôt, quels sont maintenant, qu'est-ce qui nous permet de comprendre les perspectives de ce sommet, des futurs sommets? Est-ce qu'il n'y a pas une scission au sein de la Ligue arabe? Monsieur Akram Karyev, je vous propose de commencer.
Oui, clairement, on a vu clairement une cristallisation de deux camps à l'intérieur de ce qui est appelé les pays arabes, hein, parce qu'il faut déjà définir réellement cette notion d'arabité, puisque cette ligue comprend des pays comme la Somalie, comme Djibouti, les Comores, etc., et aussi des pays dont une minorité majoritaire ne se réclame pas comme étant arabe, comme les pays du Maghreb notamment. Donc on voit une cristallisation autour des régimes politiques. On a vu que, par exemple, les monarchies avaient quasiment boycotté ou avaient envoyé des délégations qui ne soient pas au sommet pour participer à ces journées-là en Algérie. On avait aussi une cristallisation autour de thématiques idéologiques, notamment celle des accords d'Abraham. On a vu que les principaux acteurs et signataires des accords d'Abraham, donc ceux qui sont pour un rapprochement inconditionnel avec l'État hébreu, eux ont aussi brillé par leur absence. Néanmoins, on a vu que l'Algérie et quelques autres pays qui étaient bien présents ont réussi à donner une déclaration finale, principalement sur la question palestinienne, rappelant les enjeux de cette question-là et rappelant son importance pour les populations de la région.
Merci, Monsieur Karieff. Alors, Monsieur Tariq Hafid, alors on voit bien, on avait donné l'Algérie comme plus ou moins, j'ai envie de dire, perdant, hein, en disant oui, beaucoup de gens ne vont pas venir à leur invitation de ce nouveau sommet. Finalement, quand même, on est loin de la minorité. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'accomplissement géopolitique de l'Algérie dans ce sommet?
En fait, ce sommet était très important pour Alger, pour le gouvernement actuel, pour le président. C'est devenu quasiment un enjeu diplomatique central pour le gouvernement. Et visiblement, le pari de tenir donc ce sommet dans de bonnes conditions, malgré certaines absences, a été tenu par le gouvernement algérien. C'est le retour aussi de l'Algérie dans le dossier palestinien, puisque l'Algérie a toujours été très présente, a toujours marqué donc l'historique de ce conflit en appuyant fortement la partie palestinienne, effectivement, mais c'est une évidence. Et il y a eu une phase où, effectivement, qui a duré à peu près 25 ans, où l'Algérie a été en quelque sorte absente de l'espace régional et international. Et là, c'est un retour réel de l'Algérie à travers deux actions. Première action, donc, ça a été cet accord qui a été signé en Algérie et dans le cadre d'une initiative algérienne, donc, toutes les factions palestiniennes. Et la deuxième action, c'est au cours de ce sommet, faire en sorte de remettre au centre des enjeux de la Ligue arabe la question palestinienne.
Est-ce que vous pensez que, toujours à Monsieur Tariq Hafid, est-ce que vous pensez que des décisions vont vraiment être prises? Est-ce que ce sommet s'est conclu avec des choses bien précises et des actions bien précises?
Oui, il y a des décisions qui ont été prises, effectivement. C'est déjà rappeler cette centralité, déjà en premier lieu, et l'attachement aussi, c'est ça qui est important, c'est l'attachement des pays membres de la Ligue arabe, de l'initiative arabe de paix de 2002, qui reste quand même un plan crédible, réaliste, auquel tous les pays, je dis bien tous les États arabes, ont insisté justement pour que cette résolution, pour que ce chapitre soit inscrit dans dans la liste des résolutions de ce sommet. Même si certains pays arabes, et Akram l'a bien rappelé, sont signataires, donc ont normalisé les relations avec Israël. Mais à travers les représentants, ont indiqué qu'effectivement, l'initiative arabe ont marqué leur engagement vis-à-vis de cette initiative arabe de paix de 2002 qui a été adoptée lors du sommet de Beyrouth de 2002. Maintenant, il y a deux choses. Il y a ce qu'on projette de faire et ce qui va réellement se produire ces prochains mois. Les pays de la Ligue arabe ont proposé, ont mis en avant leur initiative. Maintenant, tout se joue à l'international et essentiellement, il faut être faut le dire, hein, tout va se jouer à Washington.
Et Monsieur Akrankarya, vous êtes vous-même rendu à Moscou quelques jours avant ce sommet de la Ligue arabe. Quand on pense à l'Algérie en ce moment, qui notamment ce mois-ci va avoir des exercices militaires avec la Russie, qu'est-ce que vous en pensez en pensant à cet avenir? Parce que l'Algérie n'est pas seule face à ce genre de décision. La Russie souhaite jouer un rôle beaucoup plus important et être majoritaire et donc prendre la place un peu des États-Unis dans la région. Qu'est-ce que vous pensez du pays qu'est la Russie qui épaulerait l'Algérie face à certaines décisions? Est-ce que donc, dans ce cas-là, il y aurait un véritable changement?
Oui, de toutes les manières, le monde est en train de partir petit à petit vers une multipolarité de facto. Hein. Vous savez, les Occidentaux, les États-Unis en leur tête, ont tellement exclu des pays, tellement exclu de pensées, qu'en faisant ça, ils ont créé cette multipolarité. Polarité humaine, en agissant avec deux fois de mesure avec la plupart des pays du monde. Donc, oui, la Russie, la Chine, l'Iran, tous ces pays-là appellent à cette multipolarité. L'Algérie appelle aussi à garder de bonnes relations avec tout le monde, y compris avec les États-Unis. Mais l'Algérie considère que. De place pour un monde qui opère de manière totalement hostile hein, par une pensée états-unienne. Et l'Algérie, pour cela, fait appel à un accompagnement, à l'amitié qu'elle considère comme étant des pays amis, frères, notamment l'Asie, les pays qui ont une longue tradition d'amitié avec l'Algérie. Et ceci en n'excluant pas les rivalités, la compétition économique et la coexistence entre tous les pays.
Merci, Monsieur Akhrenkaev. J'ai envie de conclure avec notamment ces jeux militaires, enfin ces exercices militaires avec la Russie. Monsieur Tariq Hafid, vous aussi, vous êtes rendu en Russie. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va permettre à ce que les tensions entre le Maroc et l'Algérie s'abaissent? Est-ce que les choses se tassent finalement? Il y a eu des déclarations récemment de la part du Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je ne suis pas encore parti en Russie. Et je vais dans 2 jours. Dans 2 jours, je serai effectivement ici. Alors, concernant ces exercices militaires, l'Algérie a fait un choix dès son indépendance sur sa façon de former son armée, d'équiper son armée. Et elle a opté pour l'ex-URSS. Et cette relation, c'est confirmé même après le démantèlement de l'URSS. Et donc, cette relation s'est maintenue avec la Fédération de Russie. Ce qui est en train de se passer actuellement entre l'Algérie et la Russie concernant tous ces exercices, qui sont régulièrement entre les deux pays, et parfois même avec d'autres pays, c'est un choix. Un choix qui se fait. Respecté même par d'autres pays. Donc l'Algérie n'a aucun complexe par rapport à ça.
D'accord.
Mais le
Monsieur Tariq Hafid, je vous propose de parler un peu plus fort pour qu'on vous entende plus clairement.
D'accord. Donc je vous disais que ce qui est important pour l'Algérie, c'est son non-alignement. Et donc cette importance de pouvoir garder de bonnes relations autant avec la Russie, avec la Chine, qu'avec les États-Unis, avec les pays européens et tout autre pays. Et ça, l'Algérie le fait plutôt bien. On le voit déjà dans cette guerre entre l'Ukraine et l'Algérie. L'Algérie continue d'entretenir des relations très correctes avec l'Ukraine.
Merci, monsieur Tariq Hafid. Monsieur Akankaria, il y a eu notamment des critiques par rapport à cette Ligue arabe, disant que c'est un outil complètement inutile, qui n'a pas forcément même été créé par les Arabes. Est-ce que par le fait que l'Europe et les États-Unis sont très occupés avec la situation en Ukraine et avec Taïwan et aussi la Corée du Nord, et j'en passe encore, est-ce que vous pensez que cette fois, la Ligue arabe et les pays, les constituants vont jouer un véritable rôle et vont rester unis, donc faire reprendre une nouvelle force dans les prises de décision du Moyen-Orient?
En fait, nous vivons aujourd'hui une époque où tout regroupement de pays permettant des débats ouverts et francs est important. Donc, la Ligue arabe en tant que telle n'est peut-être pas un mécanisme très efficace, mais il permet au moins de débattre, il permet aussi de convaincre les opinions publiques nationales de l'existence d'une diversité de points de vue dans le monde arabe. De pays frères, de pays voisins, où les régimes et les populations ne partagent pas toujours les mêmes idées. On a vu l'influence, par exemple, de cette ligue, donc a eu cette ligue, sur les populations voisines au Maroc, en Libye, en Tunisie, où il y a eu des débats ouverts sur le rôle de l'Algérie, sur le rôle de ce pays arabe. Donc, en tant que tel, cette tribune-là est toujours bonne à garder. Il est clair qu'on ne peut absolument rien attendre aujourd'hui de cette ligue-là en tant qu'instrument de discussion commune pour les pays arabes, mais il n'en reste pas moins que, grâce à des efforts de certains pays, on parvient quand même à construire des tendances lourdes. Qui sont imposés par des agendas parfois occidentaux. Et je vais le dire clairement, hein, nous sommes face à une tendance où de nombreux pays sont tentés par cette drôle de paix avec l'État hébreu. Et on a la Syrie qui a réussi à regrouper tous les Arabes et à imposer dans l'agenda, non seulement qu'on n'évoque pas ces possibilités-là, mais qu'on remette la question palestinienne, la question de Jérusalem et la question de l'obligation des nations arabes et des peuples arabes de protéger la ville de Jérusalem, de protéger les populations palestiniennes. Donc tout ceci est une tribune qui prouve que la Ligue arabe a encore beaucoup d'années devant elle et a encore une vocation, hein, ne serait-ce que celle d'ouvrir le débat et de remettre en question les tendances actuelles. Parce que si nous n'avions pas eu cette tribune-là, eh ben, nous n'aurions pas eu accès à un moyen pour imposer dans le débat cette question qui est devenue, dans certains pays, notamment au Maroc, une question secondaire, voire risible parfois. Et ben voilà, l'Algérie et les autres pays de la Ligue arabe ont prouvé que ce n'était pas le cas.
Merci, M. Akraka. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, le sommet cette année, il y a eu directement un discours pour les Yéménites, il y a également eu un discours pour les Palestiniens, deux gros sujets quand on pense aux territoires arabes. Est-ce que, grand silence d'ailleurs, sur le nombre de morts par semaine, par jour, que ce soit du côté Yémen ou du côté de la Palestine, Monsieur Tariq Hafid, je pense que ce serait vous qui allez conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que certains pays arabes vont cette fois être actifs, parce que l'Algérie a toujours prôné leur sécurité, la Syrie aussi, bien qu'ils ont été absents. Mais est-ce que les autres pays arabes, qui sont très silencieux face à ces deux gros dossiers, vont commencer à réagir?
Alors, ça c'est des grandes questions, parce que le problème de cette Ligue arabe, c'est que certains prônent, comme l'Algérie, une forme de panarabisme, peut-être qui est un peu révolue, mais connaissait un peu de faire vivre, et peut-être même de ressusciter, mais beaucoup de pays arabes, et peut-être les plus puissants, c'est-à-dire sur le plan financier avant tout, sont plus dans des agendas internes, plutôt, et surtout une lutte d'intérêts, plutôt que dans une logique de rassemblement comme dit donc l'Algérie, donc à travers ce slogan l'Emchem, c'est-à-dire rassembler tous les pays arabes, ça va être très difficile. Et effectivement, si on prend par exemple le cas de la Libye, c'est beaucoup d'interférences aussi de pays arabes comme l'Égypte, comme les Émirats. Donc c'est vraiment problématique. Il y a une volonté lors de ces sommets d'essayer d'aller dans la même direction, mais dans les coulisses, on comprend très bien que c'est une question d'intérêt avant tout pour chaque État.
Il faut plus qu'à espérer que le multipolarisme fasse changer certaines choses. Monsieur Akram Khan, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de votre collègue, Monsieur Tariq Hafid, concernant peut-être qu'il y a une volonté d'unifier, mais à cause de formes de soit de lobby ou d'intérêt personnel ou national, on ne passe pas le pas?
Oui, tout à fait. Il y a des lobbies, des intérêts, mais aussi des pressions. Il ne faut pas oublier ça, il y a des pressions internationales aujourd'hui qui font que beaucoup de crises ne sont pas prêtes d'être réglées parce qu'on a décidé qu'on ne devrait pas décider. La crise de la guerre en Yémen, par exemple, en est un parfait exemple. La guerre en Libye aussi en est un parfait exemple. On a différents acteurs qui sont dans la région, qui sont aussi d'autres régions du monde, qui sont en train d'appuyer directement pour que tout ceci se poursuive. Donc, tout à fait, le sommet de la Ligue arabe a permis de mettre en évidence cette problématique-là et cette nécessité de régler les problèmes de manière interne dans les pays. C'est pour cela que on a eu comme vraiment mot d'ordre pour ce sommet-là, le fait de dire qu'il était strictement refusé qu'il y ait de l'ingérence étrangère dans les affaires des pays arabes. Cette ingérence-là ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir de l'aide, qu'il ne devrait pas y avoir de support face aux que nous sommes en train de voir, mais voilà, il faudrait qu'il y ait un arrêt des hostilités, des applications derrière, et qu'on en arrive par le dialogue. On le voit, on voit qu'il y a une amélioration du climat au Yémen, même si nous sommes encore loin de la résolution de compte des différents acteurs, mais on voit qu'il y a une amélioration. Et on espère que cela se poursuit.
Merci, Monsieur Akram Karif. Monsieur Tariq Hafid, alors on a vu l'Algérie est très active ces derniers mois d'un point de vue des relations internationales en matière de géopolitique. Ça sera quoi sa prochaine étape? On l'a vu se rapprocher de la Tunisie, on l'a vu représenter et essayer de parrainer, on va dire, la résistance palestinienne d'un point de vue de les rabibocher. Donc, qu'est-ce que ça va être la prochaine étape pour l'Algérie? Puisque est-ce que vous considérez que par exemple ce sommet a été une véritable victoire diplomatique de la part de l'Algérie?
Oui, à mon avis, c'est quand même une victoire. Oui, le sommet s'est tenu en retard, mais il a eu lieu. Le seul souci, peut-être, au sein de la Ligue arabe, c'est que la présidence algérienne va juste durer quelques mois, donc jusqu'au mois de mars. Mais en fait,
Parlez un peu plus
l'Algérie.
fort, Monsieur Tariq Hafid, n'hésitez pas à parler plus fort.
Oui, alors, le souci de l'Algérie, c'est que quand même. Elle est sur plusieurs dossiers, sur de nombreux dossiers. Donc, le dossier libyen, le dossier au Sahel, le dossier palestinien et d'autres dossiers, même si on tient à l'impliquer directement dans le dossier du Sahara occidental, alors que ça serait complètement absurde de l'impliquer dans ce dossier et en faire une partie au conflit. Donc, effectivement, l'Algérie, la diplomatie algérienne reprend donc. Un certain dynamisme et c'est tant mieux pour l'Algérie. Maintenant, il faut attendre aussi les résultats, c'est ce qui est attendu dans ces prochains mois.
Dans les prochains mois. Monsieur Carré, vous êtes d'accord? Il faut attendre les prochains mois et les résultats des prochains mois pour savoir où va se situer le futur de l'Algérie?
Je suis plus ou moins d'accord. Je pense que pour répondre à votre question, quelle est la prochaine étape, je pense que l'Algérie va compliquer un peu plus parce qu'elle a compris que il ne fallait plus laisser des champs libres aux puissances occidentales et autres pour s'impliquer dans des conflits régionaux qui la concernent, du moins, donc Sahel, Libye, etc. L'Algérie va s'impliquer moins, mais pardon, va s'impliquer beaucoup plus, mais va s'impliquer de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup moins derrière, et va essayer d'appliquer cette vision de rassemblement des forces locales des différents pays pour trouver des solutions à leurs problèmes. C'est sa mission, et c'est ce qu'elle a mis en avant depuis déjà pas mal d'années, mais on voit qu'il y a une accélération des choses, il y a peut-être une vision un peu plus claire maintenant de l'étendue de la crise, et donc je pense qu'on va voir une implication plus forte des propositions plus fortes d'intermédiation de la crise.
Merci, M. Akrinkaret. C'est là que se finit donc notre débat sous ces derniers mots de conclusion sur l'avenir d'Algérie d'un point de vue international. Nous, on vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Telegram et Vika, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à nous suivre également sur notre page Internet. À très bientôt pour un prochain sujet sur le débat.